Radio Okapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba à la présentation. Ituri, la société civile n'attend que des mécanismes concrets devant mettre fin à l'insécurité caractérisée par des tueries et autres exactions des groupes armés dans la province. Cette position est ainsi affichée après les échanges que le ministre congolais de la Défense a eu avec diverses couches de la population de Sekoua lors de sa visite de travail. Et on en parle en entame de ce journal. Vous aurez toujours dans cette édition des explications justifiant le report de la vaccination contre le Mpox dans le Sud Kivu. Initialement programmée pour le 2 octobre, c'est seulement le 7 octobre enfin que débute cette opération de prévention. Pour ratisser large sur cette question de santé publique et vous permettre de mieux cerner la prise en charge et la prévention contre cette maladie de Mpox, nous vous proposons en plus en fin de ce journal comme invité Dr Claude Bahiziré. Il est chargé des communications à la division provinciale de la santé. Ainsi, vous en saurez davantage en vous maintenant sur les différentes fréquences de Radio Okapi partout en RDC et nos plateformes numériques. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Bienvenue à votre journal. Bonsoir. Bounia, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, rencontre les notabilités de la province et ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Il est en Ituri. Il nous revient qu'il a rencontré le mardi à Bounia différentes couches de la population. Au menu des échanges, l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette province confrontée aux violences des groupes armés. La société civile souhaite voir à l'issue de ces consultations des mécanismes concrets pour restaurer l'autorité de l'État. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La persistance de l'insécurité causée par la rivalité entre groupes armés et les attaques de ces derniers contre les civils, principalement dans le territoire des Djougou, était au centre des échanges mardi entre les ministres de la Défense et les acteurs de la société civile. Dieudonné Lossa a peint le tableau sombre de la situation sécuritaire en province.
Les gens qui se trouvent dans les sites, ils ont fui la mort. Vous savez déjà, dans le territoire des Djougou, il y a même des paroisses qui ont été fermées. C'est parce qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État dans ce coin.
De son côté, le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, propose au ministre de la Défense d'accélérer le programme d'aide DDRCS. Michel Metawani justifie sa proposition.
Il y a eu beaucoup de dialogues communautaires qui ont été organisés, à travers lesquels les communautés participent dans la sensibilisation. Il y a une voie de sortie qui est le PDDRCS, que tous les groupes armés adhèrent au programme de désarmement qui est le PDDRCS. Ce qui manque, c'est l'évaluation de tous ces dialogues. Nous avons demandé au VPM qu'on évalue tous ces engagements que les groupes armés ont signés.
Guy Kabombo Mwadiamvita poursuit sa visite ce mercredi à Tchomia, au bord du lac Albert, toujours pour échanger avec la population. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Parlons de ce triste anniversaire. Ce mardi 2 octobre 2024 marque le 10e anniversaire du début des massacres des civils dans la région de Beni au Nord Kivu. 10 ans d'horreur malgré les multiples offensives militaires d'abord menées par les FRDC seuls, puis avec l'appui de la MONUSCO et enfin actuellement lors des opérations conjointes avec l'armée ougandaise UPDF. 10 ans après, si la menace des ADF s'est considérablement réduite, ses efforts n'ont toujours pas réussi à mettre définitivement fin à la violence. Martial Papi Moukeba nous en dit plus.
Tout a commencé le 2 octobre 2014. Coincés par les opérations militaires des FRDC dans les territoires de Beni, les ADF décident de changer de tactique et de s'en prendre aux civils sans défense. Ce soir-là, les assaillants attaquent les villages de Mukoko et Kokola, à plus de 40 km au nord-est de Beni. Des dizaines de civils sont brutalement tués à l'arme blanche. 10 ans plus tard, ces atrocités continuent. Teddy Kataliko, notable et ancien président de la société civile de la région, parle d'un sombre chapitre de l'histoire du pays.
10 ans de massacre, c'est trop, avec plus de 17 000 morts. Ce qui se passe en territoire de Beni, c'est le pire de l'histoire de notre pays. Des écoles incendiées, des villages entiers dévastés où la population est contrée à un déplacement forcé. Au-delà des efforts et des campagnes militaires menées, nous appelons à d'efforts politiques et diplomatiques pour que ces astres de la guerre cessent.
Depuis 4 ans, les rebelles des ADF ont également étendu leurs actions en Ituri, perpétrant des crimes graves contre les civils. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
sécurisation, pacification du Nord Kivu, les chefs d'état-major des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC se sont réunis pour la première fois lundi à Goma depuis le déploiement des premiers contingents de la communauté économique des pays de l'Afrique australe SADC dans l'est de la RDC. Objectif était d'évaluer les avancées ainsi que les défis auxquels font face ces opérations sur le terrain des combats et envisager des nouvelles stratégies. C'est comme l'explique ici le général-major Ibrahim Mike Mouhona dans ses propos recueillis par nos confrères de la cellule de communication du gouvernorat de province.
Nous sommes venus faire l'évaluation pour voir ce qui est fait par nos contingents. Comme vous le savez, après l'agression de la RDC, la SADC a décidé de créer et d'envoyer une force en provenance de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie pour appuyer les FRDC dans les opérations contre les groupes armés et surtout contre les M23. Maintenant, après avoir reçu un mandat d'une année, nous avons mené des opérations, alors le mandat d'une année touche à sa fin. C'est pourquoi nos autorités ont demandé qu'on fasse l'évaluation pour voir les avancées, mais aussi les défis dans les opérations, peut-être en termes d'équipement et matériel ou des militaires pour qu'on fasse davantage.
Au Tuile à présent, une trentaine de présumés criminels présentés hier au gouverneur de province par le commandant de la police nationale congolaise. Ceux-ci ont été arrêtés dans les territoires de Wamba et de Watsa ainsi que dans la ville d'Isiro. Le gouverneur de province Jean Bakomitong Gabou exhorte la population à poursuivre la traque de ces inciviques et de les déférer devant la justice. Le point avec Jacques Moukonkole.
Au total, 34 présumés criminels, dont une femme, ont été présentés publiquement hier au gouverneur de la province du Haut-Ouélé. Certains ont été arrêtés dans la concession minière de Durba, notamment à Jiro et Doubélé, dans le territoire de Watsa. D'autres encore à Matete et Bolélé, en territoire de Wamba. Tous sont poursuivis pour des faits infractionnels. Certains pour viol, assassinat et détention illégale d'armes de guerre. D'autres pour vol de téléphones, matelas et écrans de télévision. S'adressant au commandant de la police, le gouverneur de province l'a exhorté à traquer les inciviques jusqu'à leur dernier retranchement et les déférer devant la justice. À la population civile, Jean Bakomito Gambou l'invite à une parfaite collaboration avec les services de sécurité en dénonçant tous les suspects afin que la population vague paisiblement à ses occupations. Enfin, aux hommes de la loi, le chef de l'exécutif provincial les appelle à travailler consciencieusement et en toute indépendance et que les coupables soient condamnés conformément aux lois du pays. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À Kinshasa, il est 18h08 et nous abordons cet autre aspect de l'actualité. Il est lié à la santé. La campagne de vaccination contre le Mpox qui devait débuter ce 2 octobre sur Kivu est repoussée au 7 octobre prochain. Cela a été dit par la division provinciale de la santé qui précise que ces vaccins sont exigeants quant à la conservation. Ce qui a mis en retard l'arrivée des vaccins dans la province. Les cibles sont notamment les enfants, les jeunes, les professionnels de la santé et les professionnels de sexe. Docteur Claude Baizir est au micro de Rachel Kessimbangu.
Ce sont des vaccins un peu exigeants par rapport à la conservation parce que si on veut le garder pendant longtemps, il faut le garder au moins à moins 80 degrés. Il n'y a pas de chambre froide ou de frigo de moins 80, mais au moins pour le garder pendant un temps juste avant l'utilisation, on peut le garder dans des chambres froides à moins 20 degrés. Ça, nous en avons ici à Bukavu. Donc, le vaccin, suite à ces conditions, on les a gardés d'abord à Goma parce qu'il y a la chambre froide de moins 80 à Goma. Mais on est en train de se mener. Comme la campagne vient d'être reportée un peu à lundi, le 7, déjà dans les deux jours ici, le vaccin sera à Bukavu et à partir de Bukavu, nous allons les déployer directement dans les trois zones de santé.
Parlons présent de cette nouvelle en rapport avec la gestion administrative de la province du Kwilu. L'administrateur du territoire de Gungu vient d'être suspendu de ses fonctions. La décision est du gouverneur intérimaire de la province du Kwilu, Félicien Kiwai. Dans sa correspondance, Hervé Mputu est reproché de détournement des biens publics, de l'incompétence et bien d'autres griefs. En réaction, la société civile locale salue cette décision de l'autorité provinciale qu'il qualifie de responsable afin de remettre de l'ordre dans cette entité territoriale. Irène Bouma.
Les détournements des biens publics et des frais de fonctionnement, la spoliation, l'incompétence avérée et le manque de collaboration avec ses deux adjoints Tels sont les griefs mis à charge de l'administrateur du territoire de Gungu, Hervé Mputu, peut-on lire dans la correspondance de l'autorité provinciale du Kwilu qu'il a suspendu jusqu'à nouvel ordre. Cette décision du gouverneur Félicé Kiwai est saluée par le président de la société civile de Gungu, Joachim Kusamba, qui déclare ce qui suit.
La société civile de Gungu salue la décision du gouverneur de province. C'est une décision d'un responsable. Cette décision de suspendre l'administrateur du territoire de Gungu. Qu'est-ce qui se passe? L'administrateur du territoire, il est auteur de détournement des biens publics de l'État et aussi de l'incompétence. Et puis aussi le détournement des biens publics de l'État. On est en train de le reprocher la perte des ordinateurs et puis la perte de moto de soit mais et beaucoup d'autres choses. Ce sont ces éléments-là qui ont fait que le gouverneur de province prend la décision de le suspendre.
Dans l'entretemps, c'est l'administrateur du territoire adjoint chargé de la politique et de l'administration qui est chargé d'assumer l'intérim à la tête de cette entité. Nos efforts pour avoir la réaction de l'administrateur suspendu sont restés vains. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
En actualité en RDC, le gouvernement conteste et dénonce l'inclusion du cobalt congolais dans la liste des produits provenant du travail des enfants ou des travaux forcés tels qu'établis par les États-Unis d'Amérique. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi par le porte-parole du gouvernement, Kinshasa estime que cette décision de Washington ne tient pas compte des efforts ni des avancées majeures enregistrées dans la régulation de l'exploitation minière artisanale et industrielle par l'État congolais. Toutefois, le gouvernement dit rester ouvert à toute initiative constructive visant à améliorer les conditions de travail et à renforcer la protection des droits humains dans le secteur minier afin de contribuer à un développement inclusif et durable du pays. Des détails avec Grace Amzati.
Pour le gouvernement, cette mesure du département du travail des États-Unis ignore délibérément les réalités locales et porte atteinte à la réputation internationale du secteur minier congolais. Au sujet du travail des enfants ou du travail forcé dans l'exploitation minière artisanale informelle, le gouvernement affirme que l'entreprise générale du cobalt, créée en 2019, s'emploie à viabiliser l'exploitation artisanale au travers des mesures rigoureusement éthiques, responsables et transparentes dans l'exploitation du cobalt conformément aux lois congolaises et aux normes internationales en la matière. Quant à l'exploitation industrielle, Kinshasa rappelle que les entreprises minières locales et internationales qui opèrent en RDC les font dans le respect des lois nationales, des accords et principes internationaux, ainsi que des cadres de gouvernance et de transparence rigoureux. Tout en reconnaissant la nécessité de maintenir une vigilance accrue sur ces questions, le gouvernement congolais encourage les autorités américaines à adopter une approche équilibrée qui ne compromet pas l'accès des entreprises congolaises et internationales opérant en RDC aux marchés internationaux, mais qui soutient les efforts de régularisation en cours. Car, en tant que producteur majeur de cobalt au niveau international, soit environ 73% de la production mondiale, la RDC est appelée à jouer pleinement son rôle de pays solution pour une économie verte et circulaire, déclare le communiqué.
Avant d'aborder la page internationale de cette édition, en Bandaka, la cour militaire de l'ex-Équateur a condamné mardi un commissaire supérieur adjoint pour outrage à la magistrature. Les faits se sont passés la semaine dernière au territoire de Bomongo où le commandant du commissariat territorial est allé agresser le chef du parquet secondaire près du tribunal de paix pour un dossier judiciaire. Il a été condamné à 5 ans de prison et au renvoi de la PNC à l'issue de 2 jours de procès en flagrance. Paul Richard Malingela nous en parle.
Saisi de l'incident survenu la semaine dernière à Bomongo Centre, entre le chef du parquet secondaire Benjamin Tamboa et le commandant du commissariat territorial de PNC Bomongo, la cour militaire de l'ex-Équateur a jugé l'affaire en mode de flagrance. Ainsi, le commissaire supérieur adjoint Olivier Kassandawele a été poursuivi pour outrage à la magistrature, arrestation arbitraire et évasion des détenus. Après instruction et plaidoirie en flagrance, la cour a reconnu le commandant du SIAT coupable notamment d'outrage aux magistrats ayant physiquement agressé ce dernier à cause d'un dossier judiciaire. Les faits ont été publiés à travers une vidéo devenue virale. C'est pourquoi la cour l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à la destitution, c'est-à-dire au renvoi définitif de la police nationale congolaise. Le condamné Olivier Kassa est encore soumis à une amende de 250 000 francs congolais. Toutefois, il dispose de 5 jours pour interjeter appel. Dans son communiqué du 1er novembre, le porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature invite par conséquent tous les magistrats ainsi que toutes les personnes indignées par cet incident, au calme, à la retenue et à la sérénité. Car, souligne-t-il, la force est à la loi. Mbondaka, prochain Malingela, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'épidémie du virus de Marbourg se propage de manière inquiétante. En moins d'une semaine, 11 personnes malades ont perdu la vie. Selon les médecins, les symptômes de cette maladie sont similaires à ceux du virus Ebola. Le bilan s'alourdit au Rwanda. L'épidémie du virus a causé la mort de 11 personnes en moins d'une semaine. Samedi dernier, le premier bilan faisait état des 8 morts. 3 nouveaux décès ont donc été comptabilisés. Depuis le début de l'épidémie, le 26 septembre dernier, 27 cas ont été recensés. Et puis, 2 hommes proches du président béninois arrêtés la semaine dernière et soupçonnés de préparer un coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ont été placés en détention provisoire avant leur procès, a déclaré mardi l'un de leurs avocats. Olivier Boko, homme d'affaires et un ami de longue date du président Patrice Talon, et Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, ont été inculpés des complots contre la sûreté de l'État, corruption des fonds publics et blanchiment d'argent.
L'invité.
C'est Dr Baïziré que nous recevons comme invité. Il est chargé de la communication à la division provinciale de la santé. Il nous parle de la campagne de vaccination contre le Mpox qui devait débuter ce 2 octobre au sud Kivu, mais qui a été reportée au 7 octobre prochain. Il s'entretient avec Rachel Kiesembango.
Dr Claude Baïziré, bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est l'état des lieux du Mpox à ce jour dans notre province du sud Kivu?
À ce jour, la province a dépassé le cap de 8000 cas de Mpox dans la province du sud Kivu. Et comme vous le savez, c'est toute la province qui est déjà embrasée par cette maladie. Nous avons 34 zones de santé, mais déjà 32 zones ont déjà notifié au moins un cas. Mais dans ce 32, nous avons à peu près 7-8 zones de santé qui prennent vraiment le devant, et en commençant par la zone de santé de Mitimuresa, à elle seule, avec 2254 cas. Dans tout cela, malheureusement, nous avons déjà perdu au moins 43 malades, et ce qui est énorme, mais il y a quand même des guéris. Et ce qui est aussi, je dirais, une bonne nouvelle, nous avons déjà eu quand même assez de guéris. Nous sommes au-delà de 7000 guéris, parce que au moment où nous parlons, nous avons une affaire de 600 malades actifs. Donc il y a des malades, mais il y a quand même des guéris.
Qu'est-ce qui fait que la zone de santé de Mitimuresa continue à battre le record avec 2254 cas à ce jour? Qu'est-ce qui favorise cette propagation dans cette zone?
C'est vrai, nous avons, j'étais aussi obligé à faire une petite analyse comparativement aux autres zones. Vous vous rappellerez que c'est Kamituga qui avait commencé, mais quand on voyait l'évolution de Kamituga, ça s'est stabilisé. Tandis que Miti, vraiment, c'est ça qui nous dérange pour le moment. Et entre-temps, les mécanismes ont été mis en place. Alors, quand on a fait des analyses, nous avons constaté que, à un brusquement, Mitimuresa, dans le centre de traitement de Kavumu, il y avait tellement de malades, et de sorte que la capacité d'accueil était devenue petite. Alors, les gardes malades, les enfants, parfois les parents venaient avec des enfants, des petits-enfants. Si une mère a un petit enfant, par exemple, de 2 semaines, et il y a un fils ou une fille de 5 ans qui est malade, la mère ne peut pas laisser cet enfant. En amenant cet enfant, on arrive à constater que l'enfant aussi faisait aussi la maladie. Parfois, la mère ou le garde malade faisait aussi la maladie. Ce qui fait que cette promiscuité a aussi favorisé ces gens de contamination, malgré tout ce que nous étions en train de donner comme conseil.
Et par rapport à la campagne de vaccination qui devait débuter ce 2 octobre, les vaccins sont déjà dans la province?
Ce sont des vaccins un peu exigeants par rapport à la conservation, parce que si on veut le garder pendant longtemps, il faut le garder au moins à moins 80 degrés. Il n'y a pas de chambre froide ou de frigo de moins 80, mais au moins pour le garder pendant un temps juste avant l'utilisation, on peut le garder dans des chambres froides à moins 20 degrés. Ça, nous en avons ici à Bukavu. Donc le vaccin, suite à ces conditions, on les a gardés d'abord à Goma parce qu'il y a la chambre froide de moins 80 à Goma, mais on est en train de se mener. Comme la campagne vient d'être reportée un peu à lundi, le 7, déjà dans les 2 jours ici, le vaccin sera à Bukavu, et à partir de Bukavu, nous allons le déployer directement dans les 3 zones de santé.
Quid de la vaccination? Qui sont éligibles à ce vaccin?
Ça aussi, c'est un élément important. Même si les 3 zones ou les 4 zones vont finir par vacciner, on ne va pas vacciner toute la population, alors que c'était l'idéal. Comme il y a peu de vaccins, nous avons ciblé d'abord le vulnérable, les gens qui sont susceptibles de faire la maladie ou bien de faire la maladie et entraîner des complications. C'est ainsi que, avant, l'idéal était de vacciner d'abord les enfants, mais le type de vaccin pour les enfants va venir juste après. Donc nous comptons leur vacciner les jeunes à partir de 18 ans et au-delà, même les adultes. Mais là aussi, il faut bien spécifier. Il y a d'abord les professionnels de santé qui sont souvent sujets aussi à des infections de Mpox. Nous avons aussi des contacts, c'est-à-dire toute personne qui a été en contact avec un malade Mpox. Parmi les malades, il y a un grand nombre de professionnels de sexe. Donc le gouvernement a proposé que la priorité soit donnée aussi à cette catégorie de professionnels de sexe. Donc il y a toutes ces personnes vont être aussi vaccinées.
Docteur Claude Baïziré, je vous remercie.
Merci beaucoup.
À vos auditeurs de Radio Capi, nous disons aussi merci pour votre attachement et attention soutenue accordée à cette édition de journal.